J'accueille Johanna Jassin, bonjour.
Bonjour David.
Conseillère à France Travail, conseillère en entreprise. Et ce matin, Johanna, on accueille...
On accueille Alexia Isoré.
Bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous.
Alexia, tu es responsable chez ASAE. Ce matin, vous avez compris, à mes auditeurs et auditrices, nous allons parler des métiers du service à la personne. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que fait ASAE ?
Alors donc, ASAE fait partie du groupe à domicile, comme Domalliance, qui sont présents sur tout le territoire national. Du coup, on a 10 000 salariés sur tout le territoire. Notre métier au quotidien, c'est le maintien à domicile pour des retours d'hospitalisation. Donc les personnes ont des besoins pour la toilette, la préparation au repas, l'aide au lever, au coucher. C'est des actes de la vie courante. Voilà. Mais on a également une filière ménage pour l'entretien du domicile, le repassage et l'aide aux courses.
Ça emploie combien de personnes, la structure ?
Là, on est sur une vingtaine de salariés, d'intervenants.
Vingtaine de salariés dans différents postes ?
Oui, on a des auxiliaires de vie et on a des aides ménagères.
Des auxiliaires de vie qui sont avec quel type d'emploi ?
Ils font, donc du coup, ils interviennent pour la toilette, pour l'aide au lever, l'aide au coucher, pour la préparation des repas, pour les assister au repas, pour éviter les fausses routes, ces choses-là. C'est vraiment des actes de la vie courante.
Ouais, c'est une structure privée, hein, je le rappelle.
Oui, c'est
ouais.
Ça.
Comment vous vous financez ?
Donc, on a plusieurs types de financement. Donc, soit c'est sur les deniers personnels de la personne quand ils n'ont pas les aides, mais ils peuvent également avoir les aides de leur caisse de retraite type CARSAT, CNRACL, mais également des aides du département type APA et PCH.
Donc, c'est la semaine de l'aide à la personne. Et est-ce qu'on peut dire que le secteur d'activité, secteur professionnel d'aide à la personne, est un secteur en tension ?
Oui, c'est un secteur en tension avec des profils très durs à recruter. C'est pourquoi, en partenariat avec France Travail, on a mis des choses en place. Parce qu'aujourd'hui, trouver des profils qui correspondent avec des bons savoir-être, c'est très compliqué.
C'est quoi la principale qualité ou les principales qualités pour intégrer votre structure ?
Donc aujourd'hui, c'est l'empathie, l'écoute, la connaissance et le respect des règles d'hygiène. Bien sûr, quand il y a des interventions sur de la toilette, sur la préparation au repas, mais également de la patience et de la bonne humeur par rapport à certaines pathologies.
Est-ce qu'on peut parler du parcours professionnel sur les différents métiers que compose justement la structure ASAE ?
Oui, tout à fait. Pour le poste d'auxiliaire de vie, il faut 3 ans d'expérience sur le poste ou un diplôme d'auxiliaire de vie. Là, notamment, on peut faire le diplôme d'auxiliaire de vie peut être dispensé par le GRETA. Mais on prend également des bacs ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne qui est dispensé par le lycée Édouard Vaillant. Mais également, on peut voir et se rapprocher de France Travail avec les CPF ou également France Travail peut prendre en charge les formations.
D'accord. Johanna, dans ce dispositif, donc, tu peux en savoir un petit peu plus.
Du CPF ?
Oui, CPF, pardon.
Oui, bien sûr. Donc le CPF, le compte personnel de formation, a été créé afin de vous permettre de continuer à vous former tout au long de votre parcours professionnel. Que vous soyez salarié, travailleur indépendant ou demandeur d'emploi, le CPF vous accompagne de votre entrée dans le monde du travail jusqu'à la retraite. Attention au CPF que lorsque vous êtes en activité professionnelle et pas lorsque vous êtes demandeur d'emploi.
Le métier d'aide à la personne, quand même, relève de quelques défis. Vous êtes confronté à quels défis dans ce métier ?
Alors, les principaux défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien, c'est composer avec le vieillissement de la population, l'handicap et les différentes pathologies pour les auxiliaires de vie. Notamment, du coup, c'est surtout les personnes qui rentrent à domicile parce qu'il y a de moins en moins de places en EHPAD, en structure médicalisée. On a aussi, pour les aides ménagères, les clients qui ne sont pas patients et qui peuvent être parfois très exigeants.
Quels sont les aspects les plus gratifiants dans votre domaine ?
C'est les remerciements qu'on peut avoir de l'entourage, mais aussi des personnes qu'on aide au quotidien. La bienveillance, ces choses-là.
Comment votre métier évolue avec les nouvelles technologies ?
Je dirais que...
Vous avez des applications, vous avez...
Non, on n'a pas d'application. On a un extranet où à la fois les intervenants comme les entourants, l'entourage de la personne peut consulter les plannings, les fiches missions. Ça s'arrête là. On se forme un peu au quotidien. Après, je pense qu'il y a une limite sur le tout technologique parce qu'on est sur des métiers où, avec le vieillissement de la personne, les personnes n'ont pas forcément d'accès à Internet et donc c'est pas forcément évident pour eux d'avoir accès au planning, d'avoir accès à ces informations-là. Donc on reste quand même sur des choses où on peut les aider version papier ou même leur donner les infos par téléphone.
Et comment justement France Travail intervient pour répondre à la demande pour pouvoir se former sur les nouvelles technologies de la part de structures ? En l'occurrence, ça pourrait être le cas avec Azaï.
Alors aujourd'hui, on peut avoir des solutions sous format d'atelier pour les personnes qui sont loin de l'utilisation de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc on peut les accompagner sur diverses thématiques, hein, tout dépend. On peut passer par le fait de juste créer une adresse mail et aller après sur le fait d'aller sur des sites internet, de faire des démarches au quotidien. Il y a également des bus France Service qui passent dans les communes alentours pour les personnes qui ne sont pas équipées ou qui sont loin des structures de type France Travail. Et il y a du personnel qualifié qui est là pour les aider et les accompagner dans toutes les démarches courantes et administratives.
Ce sont des formations gratuites ou payantes ?
Alors, le bus France Service, c'est complètement gratuit. C'est vraiment des personnes qui se déplacent de village en village et qui sont là pour accompagner sur tout ce qui est nouvelles technologies, entre guillemets, et démarches administratives. Concernant les ateliers, c'est 100% gratuit pour les demandeurs d'emploi, afin d'être accompagnés sur toutes les démarches.
Voilà, ben oui, parce que ça nécessite quand même, ça mobilise un formateur ou des formateurs, justement.
Bien entendu.
Sur la formation, la dite formation, oui. Comment vous voyez l'avenir du métier d'aide à la personne ?
Comment je vois l'avenir ? Je dirais que ça va être compliqué en termes de recrutement parce qu'on est toujours sur des profils spécifiques. Et comme je disais tout à l'heure, avec le vieillissement de la population, l'handicap, ça va devenir, je pense, des métiers en tension.
Comment on peut donner envie, justement ?
Comment on peut donner envie ? Avec tous les avantages qu'on propose au quotidien, travailler aussi dans la joie, la bonne humeur également,
ouais.
C'est hyper important.
Des horaires modulables ?
Oui, exactement.
Ouais, ça va être là-dessus.
Les horaires modulables, tout le panel d'avantages au quotidien, donc les remboursements kilométriques, les tickets restaurants, mais aussi surtout. Notre agence fait qu'il y ait une réelle qualité de vie au travail et que derrière, les intervenants se sentent réellement bien. Voilà. On est également suivi en partenariat. On a un partenariat qui est fait, le groupe à domicile, avec Moka.care, un service qui suit tous les intervenants, à la fois terrain et intervenants bureaux, où il y a une ligne d'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et il y a aussi des podcasts pour que les intervenants puissent mieux dormir, puissent gérer leur quotidien qui est parfois compliqué.
Alors là, vous m'avez donné envie. Je vais changer de métier. Mais peut-être, ça serait de par votre expérience ou l'expérience de vos collègues, par peut-être une anecdote.
Alors, une anecdote, oui, j'en ai une récemment. Je suis allée chez une cliente qui, je sentais, c'était très compliqué pour elle parce qu'elle se laissait aller. Et son logement était très encombré. Elle était, je sais pas, elle se laissait complètement aller. J'ai joué le côté psychologique, j'ai écouté parce que chaque rendez-vous client, je suis totalement à l'écoute. Il n'y a pas uniquement l'aspect contrat, il y a aussi l'aspect écoute au quotidien dans notre métier. Et du coup, j'ai su directement quelle personne, quelle intervenante je devais mettre. Et cette intervenante, c'est une petite de 24 ans qui est aide-ménagère, qui est extraordinaire. C'est un petit rayon de soleil. Et du coup, elle y a été. L'intervenante lui a dit... elle lui a fait un câlin parce que la personne ne s'attendait pas à ce qu'elle reste. Elle pensait qu'elle allait partir et la personne s'est mise à pleurer. Donc, elle lui a fait un câlin. Donc, c'est pour des expériences comme ça au quotidien que je continue à faire ce métier. Et C'est épanouissant.
Johanna, au sein de France Travail, ça représente combien d'offres pour le métier de service à la personne alors, je ne sais pas si on peut quantifier par semaine, par mois, une jauge à peu près.
Je ne vais pas avoir les chiffres exacts, mais aujourd'hui, on qualifie vraiment ce métier comme un métier en tension, avec de forts besoins de recrutement. On peine effectivement à trouver du personnel qualifié dans ce domaine. Donc pour vous donner un chiffre, je ne vais pas vous donner un chiffre vraiment concret, mais ça peut représenter là actuellement peut-être une dizaine de besoins.
Johanna, alors on l'a vu avec ASAE qui est une structure privée, il y a une structure publique au nom d'AFADO. Comment on accompagne et l'une et l'autre ?
Alors effectivement, il y a différentes façons d'accompagner nos structures, enfin les structures de nos entreprises. Aujourd'hui, ASAE va seulement passer, entre guillemets, par une réunion d'information collective avec une présentation des métiers. AFADO, on l'accompagne d'une autre façon. Peut-être qu'Alexia, à un moment donné, optera pour ce dispositif. On propose la MRS. Donc la MRS, qu'est-ce que c'est ? C'est la méthode de recrutement par simulation. Donc, je vais vous donner un petit peu plus de détails. Donc, c'est une approche innovante qui évalue les compétences des candidats par des simulations de tâches. Donc, en gros, on utilise des exercices pratiques et des mises en situation adaptées au poste à pourvoir. Donc, la méthode de recrutement par simulation permet d'évaluer la capacité des candidats à réussir dans un environnement spécifique. Donc, c'est un dispositif qui favorise l'insertion professionnelle des personnes en difficulté en se concentrant plus sur les aptitudes pratiques plutôt que sur le parcours et les expériences. Donc, c'est particulièrement utile pour les jeunes sans diplôme, les demandeurs d'emploi à longue durée et les personnes en reconversion professionnelle. Et c'est ce qu'on va proposer avec AFADO.
Merci Johanna et nous accueillons tout de suite M. Frédéric Dupin. Bonjour.
Bonjour David, bonjour Johanna.
Et on continue justement cette émission « L'emploi et vous ». Après avoir reçu la structure ASAE, eh bien nous allons parler AFADO. Vous êtes directeur d'AFADO 18.
Alors oui, je suis directeur de l'association AFADO 18. AFADO 18, ça veut dire aide familiale à domicile du Cher, structure associative qui fêtera d'ailleurs ses 80 ans l'année prochaine. Qui dit association dit un conseil d'administration à mes côtés pour piloter le projet associatif, puisque nous sommes association de l'économie sociale et solidaire, établissement social et médico-social.
Poussons les portes justement d'AFADO. Quels sont les métiers qu'on y trouve à l'intérieur de cette structure ?
Alors, on y trouve des métiers administratifs, celui de directeur, celui de responsable de secteur, celui d'assistante, celui d'employé de bureau, mais on y trouve surtout des intervenantes à domicile, d'une manière générale, qu'on appellera des aides à domicile, pour faire large dans la présentation du coup de ce beau métier.
Ouais, combien de personnes ils travaillent justement à AFADO 18 ?
Alors à AFADO 18, en fait, c'est deux territoires d'intervention, c'est Vierzon intramuros, ça c'est un élément important puisque le siège social se trouve à Vierzon. Ça représente à peu près 90 salariés dans la structure, 55 sur Vierzon, 35 sur le territoire de Saint-Amand-Montrond.
Focus justement sur ce métier d'aide à la personne, comment on peut décrire le quotidien de ce métier ?
Alors c'est un métier qui vient accompagner et prendre en charge les publics dits vulnérables, soit de par l'âge, soit par le handicap. Et du coup, on prend en charge aussi les familles. Contrairement à ma consoeur d'ASAE, on dit toujours un peu dans le projet de la structure, on accompagne tous les âges de la vie, du plus jeune âge au plus grand âge. Et c'est vrai qu'on accompagne dès la naissance. Jusque la personne âgée qu'on a accompagnée le plus longtemps, elle avait 102 ans. Vous voyez, donc un panel assez large, du coup, d'accompagnement dans les besoins du quotidien, en fait, et de la vie courante. C'est là notre objet principal d'intervention, puisque nous sommes, comme je le rappelais tout à l'heure, un établissement social et médico-social de par la loi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur en tension, le métier d'aide à la personne ?
Alors, en effet, c'est un secteur considéré en tension par les opérateurs de le coût de l'emploi, puisqu'aujourd'hui l'observatoire du métier en fait met en avant depuis maintenant 4-5 ans des vraies difficultés de recrutement pour l'ensemble du secteur de l'aide à domicile. Et en effet, on travaille bien évidemment avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation pour essayer de raccrocher du coup et permettre de donner d'attractivité à ce métier, à ce beau métier. D'ailleurs, nous en célébrions du coup la journée des aides à domicile lundi dernier. pour mettre en avant, encore une fois, à l'échelle du grand public, et puis surtout valoriser ce qu'elles font de manière assez pertinente, du coup, sur le terrain. Et en effet, c'est un beau métier qui est souvent mal connu, mal perçu, mal représenté, mal valorisé, et qu'en effet, et pourtant, c'est les personnes qui sont dans le quotidien, du coup, des personnes fragiles, les plus importantes dans le maintien à domicile, surtout.
Sur ce profil d'aide à la personne, quelles sont les compétences et les qualifications requises ?
Alors, il y a les compétences, mais il y a surtout, on sait, la dimension du savoir-être. C'est la, entre guillemets, ce qu'on appelle les soft skills. C'est le relationnel, c'est l'écoute, l'empathie, l'attention qu'on porte à l'autre. Je dirais toujours, comme je dis souvent dans les recrutements, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, c'est pas nécessaire de faire ce métier. Et puis ensuite, nous, on accompagne énormément sur le volet de l'intégration et de l'accompagnement dans la prise de poste. On développe notamment des tutorats, on met en place des parcours de formation, on met en place des parcours de qualification. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre aujourd'hui dans la structure d'AFADO 18 est accompagné, je dirais quelque part, du début à la fin. S'il a un souhait de changer de parcours en cours de route, nous l'accompagnons sur ce qu'on appellera les transitions professionnelles. Et il y a tout un parcours de formation, un parcours aussi qui se fait avec des personnes expertes que nous avons formé au tutorat pour faciliter l'intégration, puisque quand on vient dans ce beau métier, parfois on ne peut pas tout savoir, et forcément on est là pour apprendre. Donc un parcours de formation avec des organismes de formation tels le Greta, ou le lycée professionnel notamment que nous avons la chance d'avoir sur Vierzon, ou soit en effet par les apprentissages qui se transmettent via les tutrices que nous avons formées du coup aux transmissions.
Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans ce métier ?
C'est les défis du grand âge, tout d'abord, puisque nous sommes, je dirais, notre quotidien. J'évoquais tout à l'heure un peu que nous intervenions auprès de tous les âges de la vie. Mais c'est vrai que depuis 7 à 8 ans, on sait que la démographie du territoire a extrêmement, on va dire, bougé, c'est-à-dire qu'il y a une évolution du grand âge, et que notre curseur, en fait que la démographie va continuer à s'accentuer, et que notre défi, en fait, c'est répondre aux besoins sociaux des personnes que nous devons accompagner au domicile. Et puis le deuxième volet, c'est peut-être se rapprocher et travailler de manière plus coordonnée avec les acteurs de l'emploi, et nous le faisons déjà. Je travaille avec les structures de l'insertion pour l'activité économique, bien évidemment je travaille avec France Travail et la mission locale, pour sourcer, présenter, et là il y a un travail de fond qui se fait maintenant depuis 6 mois avec France Travail, notamment sur la méthode de recrutement par simulation. On développe depuis très peu la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, ce qu'on appelle dans un acronyme la POI, qui permet en fait d'avoir quelqu'un qui vient nous rencontrer, souvent des personnes en reconversion, qui vont passer 4 semaines en situation d'immersion, en situation réelle, et donc qui vont être tutorés pendant 4 semaines avec quelqu'un pour découvrir et apprendre une partie du métier, surtout appréhender les questions de la prise en charge, parce que quand on a une idée d'un métier, ça vaut pour tous les métiers, mais celui-ci surtout, le découvrir sous une forme de 4 semaines, ce n'est pas de trop pour approcher. Et puis au bout de 4 semaines, souvent, en effet, soit ça a matché, la majorité des cas. Et puis aussi, pendant ces 4 semaines, on forme sous forme numérique, puisque c'est avec les nouveaux outils de la formation. On a 12 heures de formation qu'on propose pendant ce temps d'un mois de stage. En fait, on alterne la formation théorique et puis en même temps de l'immersion en situation réelle pour, on va dire, appréhender et prendre en charge les personnes fragilisées.
Quels sont les aspects les plus gratifiants dans ce domaine ?
Alors, les plus gratifiants, c'est répondre à des besoins tout simplement de personnes en situation de vulnérabilité. De par là, je parle handicap. On est bien dans un établissement social et médico-social. Comme je disais, il faut aimer les gens. Et donc, c'est les maintenir à domicile, les accompagner dans leur quotidien. C'est ce que l'on doit, entre guillemets, avoir comme ADN dès l'instant qu'on vient, je dirais, franchir la porte de l'association. Encore une fois, association. Qui dit association dit 2 choses. Dit valeur associative, établissement social et médico-social, ça c'est plutôt le cadre réglementaire, et puis l'économie sociale et solidaire, en effet, c'est-à-dire qu'on est bien là, avec du sens que l'on donne à notre mission.
Comment votre métier évolue avec les nouvelles technologies ?
Alors, les nouvelles technologies, nous avons franchi la première étape en 2015. Nous avons équipé l'ensemble de nos équipes de smartphones professionnels qui leur permet d'avoir un certain nombre d'informations concernant, je dirais, le client. Et puis dans un deuxième temps, et ça c'est un travail qu'on a amorcé depuis un an, on a mis en place une plateforme qui permet notamment aux aidants et à l'ensemble des partenaires médico-sociaux avec lesquels nous travaillons, je pense aux infirmières libérales, je pense aux services de soins infirmiers à domicile, je pense aux délégués, aux tutelles, enfin l'ensemble des partenaires et surtout aussi les familles qui sont les aidants proches, plutôt les enfants quand ils sont à distance. On a créé cette plateforme qu'on appelle chez nous DOM en fait, hein, qui est un outil, un portail en fait, qui permet à chacun d'avoir une vision très rapide du planning et puis d'avoir accès à un certain nombre de documents on va dire administratifs et surtout de suivre un peu de manière collaborative tout le travail que l'on fait de manière partenariale en systémique autour de la prise en charge de la personne accompagnée. Ça c'est une évolution, c'est un virage qu'on vient de commencer à amorcer depuis quelques mois et qui permet d'agréger en fait l'ensemble des parties prenantes autour d'une prise en charge de la personne. Et ça, c'est un élément en effet intéressant puisque c'est pour les enfants souvent qui sont à distance, ils ont un souhait d'information. Et en fait, le fait qu'on le partage de manière collaborative sur cet outil, c'est un outil de réponse un peu global puisque chacun a sa place dans le maintien à domicile.
De par votre expérience et votre vécu, quels conseils vous pourriez donner aujourd'hui pour réussir dans ce métier ?
Pour réussir des métiers, dans ce métier, il faut tout d'abord, je vais me répéter un peu, c'est aimer les gens. Après, il faut avoir envie d'apprendre, mais ça vaut pour tous les métiers. Avoir envie de découvrir, envie de se remettre en cause aussi, parce que, encore une fois, et c'est le travail que je mène avec l'ensemble de mes équipes, c'est de ne jamais penser qu'on a la science infuse, surtout quand on intervient auprès de personnes à accompagner. Il faut sans arrêt travailler sur des logiques de groupe, et c'est le travail d'ailleurs que l'on mène, qu'on va mener plutôt du coup dans les prochains mois, on va déployer ce qu'on appelle des équipes autonomes. Alors les équipes autonomes s'inscrivent dans un projet phare que je viens d'écrire il y a peu de temps avec l'ensemble de mon équipe et mon conseil d'administration, ce qu'on appellera améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Mais ce n'est pas qu'un mot, c'est-à-dire qu'on va sectoriser nos équipes. C'est un élément important puisque ça permettra en fait à un pool d'aide à domicile d'intervenir auprès d'un groupe de clients pour permettre aussi que tous les 15 jours, en fait, les salariés qui sont dans ces équipes puissent se voir deux fois par mois pour, on va dire, travailler plus communément ensemble sur la prise en charge de la personne. Et ça, c'est un élément qu'on est en train d'évoquer, qu'on est en train de réfléchir et d'organiser. Ça permettra d'une part aussi de mieux répondre dans une prise en charge globale et partagée de mes équipes les unes avec les autres, et en même temps d'être accompagné par les équipes support, que sont les managers ressources, on les appelle comme ça dans cette nouvelle appellation d'équipe autonome, et puis en même temps, du coup, d'aller sectoriser, ça veut dire aussi réduire le nombre de kilomètres qu'elles réalisent aussi par jour, puisqu'on s'est aperçu, même si on intervient, et c'est la particularité d'AFADO 18, on intervient qu'intramuros au sein de Vierzon, ce qui limite déjà les déplacements, mais Vierzon c'est grand. En sectorisant, on va aussi limiter les déplacements de nos équipes, puisqu'on sait que le carburant ça coûte et qu'il est parfois pas suffisamment pris en charge par les pouvoirs publics. Voilà.
Comment vous voyez l'avenir de ce métier ?
Or l'avenir c'est de réfléchir encore une fois à ce qu'on est en train d'organiser, ce que j'évoquais à l'instant, c'est de permettre en fait du coup de bien réfléchir sur la qualité de vie au travail des salariés, notamment d'adapter sans cesse le planning en fait des missions que nous avons, c'est de réfléchir en fait avec les organisations des personnes que nous recrutons, des personnels que nous recrutons, et donc d'aller, on va dire, sécuriser globalement les parcours professionnels au travers en fait ce qu'on appellera de la gestion d'horaires un peu atypiques. Parce que je me vois confronté aujourd'hui, et c'est là tout l'enjeu, et ça fait plusieurs années qu'on y travaille, c'est on a évidemment des mamans qui sont parfois des familles monoparentales, qui ne trouvent pas toujours des solutions en termes de garde pour leurs enfants, et donc qui peuvent, entre guillemets, être disponibles à partir de 9h jusqu'à 17h. D'ailleurs, à l'instant, je viens de quitter quelqu'un que nous avons en stage, mais qui avait encore besoin de se sécuriser son parcours par rapport à la prise en charge de son enfant de 2 ans et demi. Et en fait, aujourd'hui, en fait, elle vient me revoir après avoir passé un temps de stage de 2 fois 3 semaines sur son parcours de titre professionnel d'assistante de vie famille. Et en fait, la question qu'elle se pose, elle dit, voilà, M. Dupin, je suis prêt à travailler pour vous, mais je peux travailler de 9h à 17h. Bon, à partir de là, et je ne peux pas travailler le mercredi puisque je n'ai pas de solution de garde pour ma fille, et bien auquel cas en fait c'est à moi de me réorganiser pour continuer à répondre en même temps aux personnes. Je vais pas, on ne va pas les, entre guillemets, les aider à se coucher à 17h du soir. Bien évidemment que non. Mais c'est par une équipe et un ensemble de composantes de l'équipe, en essayant bien évidemment de répondre aussi. Il y a deux éléments de contexte. Répondre aux besoins des personnes, accompagner, ça c'est une nécessité puisque c'est notre objet principal, mais en même temps, prendre en compte la qualité de vie de mes professionnels, c'est un élément indispensable si je veux continuer à recruter d'une manière sécurisante et d'une manière fidélisée mes salariés.
Est-ce qu'on peut terminer peut-être un point sur la mobilité ? Parce que ça paraît
alors, en effet,
incontournable.
Tout à l'heure, David, vous échangez sur les défis. Les défis, en fait, on a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi, de chercheurs d'emploi qui viennent vers nous, qui n'ont pas, on va dire, parfois pas le permis, parfois pas la voiture. Et en fait, AFADO 18 s'est doté, en fait, pour le mois d'avril prochain, de 10 vélos à assistance électrique, financés par la région Centre-Val-de-Loire et par les fonds européens. Et puis en même temps, a notamment acheté deux voitures, une pour Saint-Amand et une pour Vierzon, pour aussi aider la mobilité. On est confronté soit des jeunes ou des adultes qui ont le permis de conduire et qui n'ont pas du coup le véhicule tout de suite disponible parce que pas les ressources pour y faire face. Donc on s'est doté d'un véhicule qui va être en service à partir du mois d'avril. Alors c'est pas la panacée, mais c'est néanmoins une réponse. Et puis ça permet aussi de répondre à une autre question. J'ai des salariés qui, du coup, aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, ou parfois dans des éléments, il y a une panne qui arrive comme ça et qui désorganise un peu la structure. Et du coup, qui se retrouvent en fait sans mobilité, parce que le garage ou leur assurance ne leur permet pas d'avoir un véhicule de remplacement, on aura un véhicule, on va dire, à quai, qui permettra, encore une fois, de régler cette question de mobilité. Pourquoi, pour ma part, cette réflexion ? Parce que, en fait, il y a une loi, en fait, qui s'appelle la loi Bien Vieillir, hein, qui date du 8 avril 2024. Les ministres ont du coup, et les parlementaires ont validé cette loi. Il y a 37 décrets dans la loi. Il y en a 3 parus aujourd'hui qui sont en application. Il en manque un, surtout, qui nous serait bien utile. C'est le financement de flottes de véhicules pour l'ensemble de nos salariés. Et ça, c'est un enjeu et un défi, parce qu'aujourd'hui, de par la fragilité, la précarité, en fait, dans laquelle se trouve ce secteur d'activité, et surtout pour avoir une attractivité supplémentaire, le véhicule, c'est le premier outil qui permet de prendre un travail au-delà des formations sur lesquelles on peut déployer des moyens. Et c'est vrai qu'il y avait une attente forte du secteur d'activité et de la branche professionnelle d'avoir, puisque les structures associatives, plus particulièrement, se sont un peu, on va dire, battus pour que la loi Bien Vieillir puisse, entre guillemets, aboutir. Mais néanmoins, aujourd'hui, on se bat pour que les décrets d'application viennent permettre, on va dire, un soutien réel des pouvoirs publics sur notre beau secteur. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème globalement d'attractivité si on vient, on va dire, sécuriser la prise de poste. Il y a toujours, entre guillemets, des personnes qui ont l'appétence à l'aide. Et tous ces désaccompagnés aussi, de par leur situation et leur fragilité aussi dans la recherche d'emploi.
Merci beaucoup Frédéric Dupin, directeur d'AFADO 18, et merci d'avoir participé à ce premier numéro de L'Emploi et vous sur Radio Tintouin.
C'est moi qui vous remercie, Radio Tintouin, de m'avoir convié notre coup à cet échange, notamment dans la semaine des services à la personne.